down.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
18h44, Trump à la Maison-Blanche, notre rendez-vous du lundi en direct de Washington. Frédéric Carbone, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Le limogeage, Frédéric, du directeur du FBI continue à susciter une puissante onde de choc chez vous, à la fois sur la forme et le fond.
Oui, et on peut même dire que c'est la forme, la méthode brutale pour l'éviction, les mots très durs ensuite à l'encontre de James Comey, puis les menaces à peine voilées si lui venait à l'idée de parler à la presse, la forme donc qui inspire ce fond d'inquiétude, de gravité, d'effroi même, qui accompagne cette décision de Donald Trump. Et l'illustration la plus significative, ce sont les propos de James Clapper, l'ancien patron du renseignement américain, un homme très discret, qui parle peu, et qui hier était sur plusieurs plateaux de télévision pour exprimer cette forme d'état d'alerte démocratique.
Ce qui s'est passé la semaine dernière est très inquiétant, très dérangeant pour moi. Je pense que nos institutions subissent une agression externe, avec l'interférence russe, mais aussi une agression interne.
À l'intérieur, du fait du président ?
Exactement.
Les pères fondateurs ont créé un système avec trois branches égales au gouvernement et ont imaginé une série de contre-pouvoirs. Je pense que ce système est attaqué et affaibli.
Et James Clapper ajoute que ses interlocuteurs au FBI sont très inquiets. Il y a une question de confiance clairement posée entre Donald Trump et l'institution. Ce sera le premier chantier du successeur de James Comey. La nomination pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Mais le candidat désigné, quel qu'il soit, devra ensuite être approuvé par le Sénat américain.
Et quelles sont les réactions politiques, Frédéric, à ce limogeage ?
Écoutez, vous en doutez, il y a unanimité chez les démocrates pour dénoncer une forme d'abus de pouvoir, une dérive autoritariste et pour relancer leur exigence de nomination d'un procureur indépendant pour superviser l'enquête russe. Comment, disent-ils dans ces conditions, le FBI et le ministère de la Justice dont ils dépendent pourraient-ils être crédibles dans ce dossier ultra sensible? Mais dans l'entourage de Donald Trump, on défend la décision du président américain. Voilà par exemple Nikki Haley, figure du Parti républicain, ambassadrice aujourd'hui auprès des Nations Unies.
Le président est le patron de ce pays. Il peut nommer ou limoger qui il veut. C'est son droit et que cela vous plaise ou non, c'est la vérité. Ce qu'il cherche à faire, c'est à constituer sa propre équipe. Il ne passe pas son temps les bras croisés. Quand quelque chose ne va pas, il tranche. Et si les gens sont mal à l'aise, c'est parce qu'il agit. Il ne fait pas que parler, il agit.
Alors bien sûr, vous avez des élus républicains plus embarrassés, notamment par la déferlante de tweets de Donald Trump, sous-entendant qu'il a enregistré des conversations avec James Comey et qu'il ferait bien de se méfier. Mais de manière générale, on reste dans un mélange de silence gêné et de suggestions que l'on ne change pas Donald Trump, qu'il faut bien faire avec, ce qui provoque la colère d'Anna Navarro, une stratège républicaine qui en appelle à la conscience de ses camarades.
Quand il menace littéralement l'ancien directeur du FBI ou quand il s'en prend à des juges sur Twitter, les gens attendent que les dirigeants condamnent cela. Être responsable républicain ne signifie pas que vous êtes dans le culte de la personnalité de Donald Trump. Quand il fait ce genre de choses, vous avez votre cerveau, votre conscience, votre loyauté vis-à-vis de la Constitution qui vous disent de parler, de vous lever et d'agir.
En fait, on l'a bien compris, Nicolas, dans ce genre de tempête, les républicains font le dos rond, ils attendent que ça passe, ils savent toutefois que la semaine dernière a été dévastatrice et que le bénéfice politique de l'adoption de la réforme de la santé a été effacé en quelques heures.
Les porte-paroles de Trump, Frédéric, ont évidemment été pris dans la tempête, mis en grande difficulté par la presse. Du coup, le président, Frédéric, veut supprimer les briefings, comme on dit, les briefings quotidiens.
Ouais, ces conférences de presse qui sont pourtant un rituel de la Maison-Blanche, une institution, là aussi de la vie démocratique américaine. Mais c'est vrai que porte-parole de Donald Trump, c'est sans doute le travail le plus inconfortable que l'on puisse imaginer. Et avec le limogeage de James Comey, on a atteint la caricature avec un président qui démonte toutes les versions que son entourage a péniblement essayé de faire passer. Et avec un porte-parole, Sean Spicer, qui en était réduit mardi dernier, quelques heures après l'annonce choc, à se cacher dans les buissons de la Maison-Blanche pour échapper aux questions dérangeantes. Donc oui, Donald Trump, qui est souvent devant sa télévision pour regarder cet exercice, il songe à le supprimer et il s'en explique chez ses amis de Fox News.
Je suis très actif et il est impossible à une, deux ou trois personnes de mon service de presse d'expliquer tout ce que je pense et tout ce que je fais. Et s'ils font une petite erreur, la presse se jette dessus et cela fait les gros titres pendant 2 ou 3 jours. J'adorerais supprimer ces points de presse tout simplement, sauf à avoir une conférence de presse tous les 15 jours que je ferai moi-même. Ça, c'est une bonne idée.
Toujours l'idée centrale de Donald Trump, faire sans intermédiaire le face-à-face permanent entre lui et le peuple. Mais vous avez bien compris qu'on est dans une période très tendue entre le président et la presse américaine. Écoutez par exemple Jake Tapper, une des voix de CNN, il y a quelques jours, au début de son émission.
La Maison-Blanche, visiblement, n'aime aucune question, mais que des reporters s'interrogent sur ce qui s'est passé, c'est parfaitement approprié et nous allons continuer.
Et si la période, Nicolas, vous rappelle les années 70, Nixon et le Watergate, vous n'êtes pas le seul. Carl Bernstein, un des auteurs du scoop mondial à l'époque pour le Washington Post, dit que ce qui se passe est même plus inquiétant. Et Dan Rather, qui avait couvert le scandale pour CBS, écrit sur son blog « Je n'ai jamais vécu une semaine comme celle-là. Je n'ai jamais vu un grand parti défendre autant d'ineptie et d'incompétence. »
Et comme si tout cela ne suffisait pas, Frédéric, Trump enflamme aussi le monde sportif.
Bah bien sûr, rien n'est épargné, aucun secteur n'est épargné. Et voici par exemple ce que vous pouvez entendre sur un terrain de lacrosse ces jours-ci. Lacrosse, pour ceux qui ne sont pas familiers des sports américains, c'est une sorte de hockey sur gazon. Bon, ben voilà, ça au moins, ça ne déplaît pas à Donald Trump. Pour motiver l'équipe locale, on a remisé les classiques au vestiaire et c'est un discours de Donald Trump qui résonne au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. Les réseaux sociaux s'emballent. Si quelqu'un a été offensé, je m'excuse, explique l'entraîneur de cette équipe universitaire. Et promis, on reviendra à une musique plus traditionnelle, Eye of the Tiger, peut-être pour la prochaine rencontre de championnat.
Frédéric Carbone en direct de Washington.